Bonsoir Marianne.
Bonsoir Sabine.
Eh bien, je vous écoute,
je suis très heureuse et très émue de vous entendre. Je vous écoute souvent. J'écoutais beaucoup aussi Caroline.
Oui, donc vous êtes une fidèle de l'émission.
Oui. Une grande fidèle, oui.
Ah, et donc vous pensiez peut-être depuis un moment à nous appeler?
Oui. J'avais déjà appelé Caroline il y a quelques mois et je vous rappelle ce soir parce que je me sentais pas très très bien ces jours derniers et puis je me suis reconnue un peu dans les témoignages, les deux témoignages précédents.
De ce soir?
De ce soir, oui.
Oui.
Moi, je suis un peu plus âgée que les deux auditrices qui ont appelé, mais je suis dans une grande solitude affective. J'ai eu beaucoup de déceptions avec les hommes. Je n'ai connu que des hommes un peu goujats aussi, qui ne me témoignaient pas beaucoup d'attention, qui m'ont déçue. Et puis... Donc, je suis...
Vous avez fait plusieurs couples établis. Enfin, vous avez fait plusieurs tentatives de vie commune et plusieurs histoires assez longues.
Oui. Plus ou moins longues. Bon, je suis veuve. Hein. Je suis veuve depuis 18 ans.
Oui.
Mon couple n'était déjà pas... J'étais pas très heureuse en couple. Et puis, les échecs se sont répétés avec d'autres hommes, bien que je sois toujours partante, que je sois très tolérante, que je m'adapte. Et malgré tout, ça ne va jamais. Voilà.
Est-ce que vous avez l'impression que ce qui ne va pas, c'est toujours la même chose, ou vous avez l'impression que ça ne va pas pour des raisons très différentes?
Ah non, c'est des raisons très différentes.
Oui. Par exemple, donc vous avez été veuve et vous disiez qu'avec votre mari, vous n'étiez pas très heureuse. Qu'est-ce qui n'allait pas avec lui?
Bon, toutes sortes de choses. Hein. Ça a été un mauvais choix au départ. Voilà. J'ai fait le mauvais choix.
C'est ça. Donc, dès le début, ça n'allait pas. C'est pas une histoire qui s'est brisée, c'est que c'était difficile tout de suite.
C'était difficile, oui.
Oui.
Oui. Bon, j'étais pas... comment ? Ni battu, ni... Non, j'étais quand même un peu humiliée. J'étais... C'était pas un mariage très réussi, quoi. C'était pas une belle union.
Oui. Vous semblez en être affectée encore aujourd'hui?
Disons que oui. Oui, je vis toujours avec ce sentiment d'échec. Et puis des échecs qui se sont répétés, donc, avec les hommes suivants.
Alors, quand vous dites répéter, qu'est-ce qui s'est répété exactement?
Les échecs, ne pas pouvoir arriver à une complicité, à une relation stable qui dure, voilà.
Est-ce que c'est juste de dire que vous n'avez jamais été vraiment bien avec un homme? Vous vous êtes jamais senti proche?
Oui.
Oui.
Mais... dernièrement, j'ai rencontré un homme, justement, avec qui le courant passait très bien, qui m'a dit qu'il me trouvait très agréable, très jolie, qu'il avait un très bon feeling avec moi, mais on s'est vu deux fois, et puis il m'a renvoyé un message en me disant « Je pense que j'aurais pu ressentir des sentiments pour toi, mais j'avoue, et je cite exactement ses paroles, j'avoue que ressentir des sentiments à mon âge m'a fait un peu peur. » Voilà. Alors, je me dis que les hommes ont du mal à s'engager, ont du mal à assumer leurs sentiments, je ne sais pas. Franchement, je ne comprends pas, je suis très découragée.
Oui.
Très triste. Quelquefois déprimée parce que, malgré tous les efforts que je fais,
vous avez le sentiment que malgré tous vos efforts, ça ne va pas pour à chaque fois des raisons différentes, mais qui font que toujours vous n'arrivez pas vraiment à une pleine rencontre avec un homme.
Voilà, et puis maintenant ça me fait peur. Maintenant ça me fait peur, voilà.
Je pense...
J'ai d'une part la peur de vieillir seule et puis l'envie de partager, parce que j'ai une envie énorme de partager. Moi, je ne conçois pas la vie et puis une relation avec quelqu'un sans le partage. Et puis, en même temps, j'ai peur de souffrir si je rencontre un homme. Maintenant, je me dirais, bon, qu'est-ce que je vais, à quoi je m'attends avec celui-là encore, qu'est-ce qui va se passer, voilà.
Celui dont vous m'avez parlé à l'instant, celui que vous avez rencontré, oui, et qui a dit avoir des sentiments, comment voyez-vous les choses avec lui ?
Ah ben je les voyais très bien, moi j'étais sur un petit nuage, j'étais comme une gamine de 16 ans, ça avait été entre guillemets un petit coup de foudre,
oui.
Très agréable, lui aussi m'avait trouvé très agréable,
et, oui.
et puis au bout de voilà deux entrevues, il a reculé en disant qu'il ne se sentait pas d'assumer quelque chose et qu'il avait un caractère ingérable. Voilà ce qu'il m'a dit. Et puis que bah, qu'il a un peu peur. Il a peur de s'engager. Voilà.
Et après vous avoir dit ça, vous avez arrêté tout contact ou vous vous donnez
bah non,
du
non,
temps
non.
Et
ah ben attendez, je vais vous dire, son message n'est pas très vieux. C'est de ce soir.
Oui. Ah ben ça peut pas mieux tomber alors qu'on se parle maintenant.
Ah ben non, c'est peut-être même ça qui m'a décidé à vous appeler, parce
oui.
que j'écoute tous les soirs, mais là ce soir vraiment j'avais envie de vous parler de ça, et puis en plus j'ai entendu les deux témoignages précédents qui m'ont conforté un peu dans ce que je ressens.
Oui. Et le message, donc vous vouliez en parler plus précisément, son message de ce soir?
Oh, non.
Non, c'est ce que vous avez dit, ce sont les termes que vous venez d'évoquer. Et son message de ce soir, il vous apprend quelque chose de plus que de dire qu'il a un peu peur, qu'il hésite à s'engager?
Non, mais ça ne m'apprend rien de plus. Non.
Il ne vous dit pas pourquoi cette peur est arrivée? Il ne vous dit pas...
Si c'est à cause de l'âge, bon, je vais vous dire, on est des sexagénaires, hein, voilà. Je n'ai plus 30 ans ni 40 ans, mais bon. Moi, je suis très dynamique. J'aime faire des projets. Je suis très sentimentale.
Mm-hmm.
J'ai des valeurs. Tout le monde me dit... tu mériterais vraiment mieux que ce que tu as eu jusqu'à présent. Tu mériterais vraiment de rencontrer quelqu'un de bien. Et ce quelqu'un de bien, j'arrive pas à le trouver. Voilà.
Oui. Et là, pour vous, est-ce que cet homme a rompu? Parce que dans le message tel que vous l'avez dit, est-ce que vous pensez que c'est qu'il vous parle de fin pour votre lien, ou comment vous
non,
avez...
Non, on peut même pas dire que c'est une rupture, parce que il y avait pas de relation commencée, il y avait rien du tout. C'était juste une première approche, quoi, mais qui s'annonçait très bien. Moi, je vous dis, c'était très
alors,
agréable comme rencontre. Et puis
Marianne, j'insiste un peu dans ma question, parce que à travers ce que vous avez dit de ce message, est-ce que vous êtes sûre que cet homme marque une sorte de distance ou de fin dans votre lien, ou vous pensez que simplement il vous communique sa peur en espérant que vous puissiez lui répondre, peut-être le rassurer, peut-être...
Oui, je pense... Oui, il a peur.
Et c'est peu... Alors, si la peur, c'est peut-être un peu tôt, Marianne, pour être dans la déception de votre côté. Peut-être qu'il ne vous dit pas qu'il prend de la distance, qu'il ne vous dit pas qu'il veut arrêter. Peut-être qu'il vous fait simplement part de ses sentiments et qu'il a envie que vous les entendiez ou que vous le rassuriez.
Non, mais moi, je ne peux pas commencer une relation avec quelqu'un qui a peur, qui n'assume rien, qui ne peut pas faire de projet avec moi, parce que c'est ce que j'avais cru comprendre un peu. J'ai trop peur d'être de nouveau déçue, voilà.
Je vous comprends tout à fait, Marianne, parce que vous avez une longue histoire de déception, donc vous êtes tentée de vous protéger.
Voilà, mais vous savez, je me protège tout à fait maintenant.
Mais parfois, nos protections deviennent aussi nos prisons. Je pense qu'il faut être vigilant, parce que est-ce que le fait d'interpréter le message de cet homme à travers le filtre de votre déception, ça risque pas de créer une forme de malentendu? C'est-à-dire où vous entendez « Ah, encore un homme qui ne peut pas s'engager, qui n'est pas prêt, qui va me décevoir », alors que lui, peut-être, vous communique simplement une peur, mais que pour lui, ce n'est pas la fin et que c'est simplement un épisode d'échange, de confidence, de demande d'aide éventuellement pour pouvoir continuer. Vous voyez, est-ce que vous le prenez à travers le filtre de vos déceptions antérieures, mais est-ce que c'est bien ça qui se passe? Est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'il ne veut pas s'engager, qu'il ne peut pas faire de projet, qu'il est inapte au lien? Peut-être pas forcément.
Ah si, je pense qu'il ne veut pas s'engager. Je pense. Et puis moi j'aurais besoin, vous voyez, parce que je suis vraiment seule. J'aurais besoin de quelqu'un qui me soutienne un peu, qui m'épaule, qui me comprenne, qui m'encourage. Et pourtant, je ne me laisse pas aller. Hein. Comme je disais à Colin tout à l'heure, je fais des essais pour rencontrer quelqu'un sur Internet. J'ai répondu à des annonces. Je suis allée dans une agence matrimoniale. Mais on m'a présenté que des hommes qui ne me correspondaient absolument pas. J'ai essayé de m'adapter, mais au bout d'un moment, ça n'allait pas. Et je me laisse pas aller du tout. Hein. Je suis dynamique, je m'adapte, mais je peux pas user le reste d'énergie que j'ai à essayer de soutenir un homme qui a peur de s'engager dans une relation. Vous voyez? Moi, j'aurais besoin d'un partage et puis qu'on s'épaule l'un et l'autre.
Pour l'instant, vous n'en avez pas parlé avec lui de sa peur?
Oh non, pas vraiment, non.
Oui. Encore une fois, vraiment, je vous comprends.
Je l'avais trouvé très, très négatif, très pessimiste. Voilà.
Ah. Oui. Même au moment où vous avez ressenti quelque chose et où vous étiez...
La deuxième fois. La deuxième fois que j'ai vu, oui.
Donc vous aviez eu des signes déjà de ça?
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il vous avait dit de pessimiste à ce moment-là?
Qu'il était très casanier, qu'il ne voulait pas faire de projet, qu'il sortait très peu, qu'il voyageait très peu, qu'il était assez solitaire. Et bon, je lui ai même demandé pourquoi il faisait une recherche pour rencontrer quelqu'un.
Oui, et qu'est-ce qu'il a dit?
Il m'a dit on ne sait jamais si je trouvais vraiment je ne sais pas.
Oui, alors là, je comprends que vous ayez des signaux d'alerte qui s'allument si dès la deuxième rencontre, déjà il vous dit que il n'est pas dans l'élan, mais qu'il est plutôt dans le repli. Enfin, même pas par rapport à vous, mais c'est sa position dans l'existence. Là, effectivement, c'est assez dissuasif parce que c'est pas une position très propice à l'amour.
Non, non.
Oui.
Et ça me conforte dans l'idée que, je répète, beaucoup d'hommes ont du mal à s'engager. Ils n'arrivent pas à se stabiliser, à s'engager, à partager, je sais pas. Moi, j'attends toujours quelqu'un qui peut partager. Voilà.
Marianne, vous voulez bien me parler un peu de votre histoire, de votre enfance, de comment s'est passé votre...
J'ai eu une enfance très heureuse.
Oui.
Non, je ne traîne pas de casserole, si vous voulez, de mon enfance. J'avais des parents qui vivaient à la campagne. J'ai toujours vécu à la campagne, mais j'étais heureuse. On vivait de peu, mais on vivait modestement. Mais j'ai eu une enfance heureuse.
Oui.
Avec des parents qui s'aimaient, qui m'aimaient.
Donc vous avez eu en modèle un couple parental qui était dans cette complicité que vous recherchez?
Ah oui.
Ah oui, vos parents, eux, ils... En fait, vos parents ont réalisé ce que vous cherchez, c'est ça?
Tout à fait. Mes parents étaient, oui, le couple idéal. Ils s'aimaient, ils étaient complices. Jamais de dispute, jamais de conflit, ou très peu. Non, j'ai pas eu un mauvais modèle sous les yeux. Non.
Je crois que même, d'après ce que vous dites, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'à partir du modèle parental, vous avez formé un idéal pour l'amour qui est fait de complicité, de fluidité, de proximité.
Oui. C'est ce que je pense que tout le monde souhaite. Hein.
Oui, alors il y a toutes sortes de souhaits dans l'amour. Je pense qu'il y a des aspirations très différentes. Il y a des personnes qui mettent, je ne sais pas, l'intensité, la passion au-dessus de la complicité. Il y en a qui mettent la création en commun au-dessus de tout.
Bon, une entente, une complicité, du partage.
Oui.
Et une envie de faire des projets. Voilà.
Et votre père, quel type d'homme est-ce ou était-ce?
Alors, mes parents sont décédés.
Oui.
Papa était un homme très très sentimental, très très doux.
Oui.
Je tiens énormément de lui. Hein. Je suis une grande sentimentale, hyper sensible.
Oui.
Il n'était pas très autoritaire, très gentil, très très doux avec nous.
Donc c'est comme ça que vous êtes devenu, donc vous lui ressemblez. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous imaginez votre homme, avec ce côté doux et sentimental?
Ben oui, un petit peu, forcément.
Oui. Et le tout début de votre vie amoureuse, vos amours de jeune fille, votre premier amour, comment ça s'est passé?
Moi, j'ai fait le mauvais choix.
Votre premier amour, c'était votre mari?
Oui.
Votre premier mari? Ah. Et vous n'aviez pas connu avant de coups de cœur ou même des relations qui restent assez...
Des petits coups de cœur, comme on en a à 16 ou 18 ans, mais j'étais très, très réservée, très... Je n'osais pas m'engager avec les garçons, j'étais... voilà.
Et pourquoi vous aviez si peur alors que vous aviez eu auprès de vous une figure d'homme comme votre père qui était accueillant, ouvert? Pourquoi vous aviez peur des garçons?
Parce que maman me faisait peut-être... me donnait un peu la peur des... Bon, il n'y avait pas beaucoup de dialogue ou de psychologie ou de confidence sur l'amour à cette époque-là. Hein.
Oui.
Donc, je me confiais très peu à maman et puis, voilà, je...
Et vous aviez des amis, vous savez, de celles avec qui on partage les premières expériences amoureuses ou...
Des amis, oui, oui.
Oui.
Oui, oui.
Ce qui me semble, Marianne, dans ce que vous dites, c'est que finalement, vous aviez sous les yeux un modèle parental très harmonieux de couple à partir duquel vous avez formé votre idéal amoureux. Mais en revanche, j'ai le sentiment que du fait de... du silence de votre mère sur ces sujets-là, on vous avait peu transmis, allez, si on dit un terme familier, de mode d'emploi pour l'amour, on vous avait peu appris comment faire avec l'amour. Est-ce que ça vous paraît juste?
Oui, c'est ça.
Et ouais, je pense que, alors, avoir un modèle presque...
J'ai quand même évolué un peu depuis.
Oui.
J'ai quand même évolué.
J'imagine. Et...
Ça ne m'a pas aidé à trouver quand même... je ne cherche pas l'homme idéal, hein, je ne cherche pas la perle. Je sais que l'homme idéal n'existe pas, tout comme la femme idéale n'existe pas non plus. Mais je souhaiterais quand même quelqu'un avec qui je puisse m'accorder, m'adapter, et voilà.
Alors, bien sûr, on ne peut que souhaiter que la vie vous apporte ça, mais parfois ce qu'on peut faire quand on réfléchit sur soi, c'est voir ce qui, de notre côté, peut favoriser cette rencontre. Il y a une part de hasard, mais il y a aussi une part active dans le hasard. C'est l'esprit dans lequel on se met qui peut favoriser la bonne rencontre. Mmh. Et oui,
je pense que j'ai fait tout ce qui était possible de faire. Je voyage beaucoup, j'ai voyagé seule, même dans les voyages, je n'ai jamais fait de rencontre. Je reste toujours positive.
Alors ça, je ne doute pas une seconde, Marianne, de votre côté actif, entreprenante, positif, mais nous avons aussi un inconscient qui lui a intégré des expériences douloureuses. Et moi, l'impression que j'ai comme ça à première vue, c'est que vous êtes partie avec ce trésor entre les mains qui est un modèle parental harmonieux, mais aussi avec peu de modes d'emploi ou peu de savoir pour vous guider dans la relation amoureuse, puisque votre mère ne parlait pas de ces sujets-là. Bon, il ne s'agit pas de la juger, hein, mais c'est plutôt d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour vous. Et puis, vous avez fait une première rencontre qui a tout de suite été votre mari. Donc, peut-être que vous vous êtes engagée dans ce mariage, vous dites que vous avez fait un mauvais choix. Peut-être que vous n'aviez pas trop la grille pour repérer les signes, pour voir si l'homme vous convenait vraiment. Et peut-être que vous avez eu une première déception qui me semble avoir laissé une marque très lourde sur vous.
Ah oui, ah ben ça c'est certain que ça m'a laissé une marque très lourde. Oui.
Et vous savez, et là c'est pas une question de votre bonne volonté ou de votre conscient, mais quand il y a une marque très lourde sur vous, c'est votre inconscient qui se met à former des croyances sur les hommes. À partir d'une expérience douloureuse, votre inconscient commence à formuler des croyances du type « un homme ne s'engage pas, un homme n'est pas aussi ardent qu'une femme dans l'amour, un homme ne prend pas ses responsabilités ». Et même si d'un côté vous avez toujours le désir d'aller vers le monde masculin et de rencontrer quelqu'un, lui, votre inconscient, il a ses croyances qui vous limitent d'une certaine manière. Vous voyez ?
Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire, mais je ne suis pas d'accord du tout. Hein. Parce que c'est pas mon inconscient qui fait que j'ai rencontré des goujats. Hein. C'est pas mon inconscient. Le goujat, il était bel et bien là. Hein. Il était très vivant, très existé. Il existait. Il était des hommes qui ne font aucune attention, qui ne vous prêtent aucune attention quand vous allez chez la coiffeuse ou que vous habillez bien. Un homme qui me reprochait presque d'être trop coquette, qui me disait pour aller à tel endroit, ne t'habille quand même pas trop bien, alors que je m'habille, je suis coquette, je suis féminine, mais sans trop. Je suis pas une poupée Barbie, mais quand on vous fait des remarques comme ça, c'est bien de la goujaterie. Hein. Et puis un homme aussi, je vais vous en citer quelques-uns. Voilà, un homme qui vous fait partager en deux le montant de la facture de restaurant un soir de Saint-Valentin. Voilà, si c'est pas de la goujaterie, ça, c'est pas mon inconscient qui parlait là. J'ai bel et bien payé la moitié d'une facture de resto de Saint-Valentin.
Alors vous savez, quand on dit que l'inconscient est présent et détermine notre vie, c'est sûrement pas pour dire que c'est votre inconscient qui crée la goujaterie de l'autre, ni même qui crée la rencontre, forcément. Là où il peut intervenir, vous savez, quand on a une croyance dans l'inconscient qui consiste à dire « les hommes sont irresponsables ou ne s'engagent pas », quand il a cette croyance, finalement, et qu'on rencontre quelqu'un qui est goujat ou qui correspond à cette croyance, ça donne quelque chose de connu et de familier qui empêche parfois que l'on rompe très vite et qu'on se dégage très vite. Vous savez, face au connu ou face au familier, on a tendance à s'adapter, même à notre insu. Donc ce que je dis, c'est pas que votre inconscient a provoqué la goujaterie, ça leur appartient, c'est leur réalité, ni même que votre inconscient a provoqué la rencontre. Mais si vous avez l'idée qu'un homme c'est comme ça, peut-être que quand vous rencontrez un homme qui correspond à ça, qui effectivement ne s'engage pas ou se comporte mal, ça vous est familier, c'est du connu, et ça peut ne pas vous éjecter de la relation aussi vite que vous pourriez le faire si vous partiez d'une page blanche. Vous voyez ? Donc c'est plutôt ça. Donc moi je pense que... alors je ne sais pas si vous seriez prête à ça, mais peut-être que ça vaudrait la peine, si vous en avez l'envie, d'envisager d'être accompagnée par un thérapeute auprès desquels vous puissiez déposer toutes ces déceptions, prendre le temps de les énoncer, prendre le temps de vous indigner, d'exprimer votre colère, d'exprimer tout ce qui peut être lié à ça, peut-être pour vous donner une chance de repartir d'une page blanche.
Oui, je vais y réfléchir.
Je vous livre ça, Marianne, vraiment, si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à nous rappeler, vous l'aviez fait déjà une première fois avec Caroline. Voilà, si vous préférez nous rappeler, nous dire où vous en êtes, surtout n'hésitez pas, ça sera toujours avec plaisir pour moi.
Entendu. Merci, Sabine.
Prenez soin de vous, Marianne. Au revoir.